Nous n'avons jamais autant voyagé. Aujourd'hui en France, nous faisons en moyenne 13 déplacements longue distance par an. C'est 3 fois plus qu'il y a 10 ans. Dans le même temps, il y a eu la prise de conscience des enjeux climatiques, le Covid et aujourd'hui l'inflation. Ces crises poussent certains passagers à changer leurs habitudes de transport. Voyager autrement, comment et à quel prix? C'est la destination de ce premier épisode. Je suis Valentin Bertrand. Bonjour et bienvenue à bord de Trafic, le podcast de Mobilettre. Aujourd'hui, focus donc sur les voyages longue distance à plus de 100 km du domicile et pour des motifs personnels. Ce sont ces trajets qui ont le plus progressé ces dernières années, mais pas de la même façon selon les voyageurs et le mode de transport.
Si je compare entre prendre l'avion ou prendre le train, je vais privilégier le train. Je vais faire le choix de l'avion si vraiment les écarts de tarifs sont trop importants.
C'est ma fille d'ailleurs qui m'avait dit « Maman, tu devrais prendre un covoiturage ». Moi au départ, je n'étais pas très chaude. Je disais « Bon ». Et puis finalement, j'ai fait plusieurs voyages en covoit.
Tout est centralisé sur Paris. Dès lors que vous voulez aller par exemple sur la côte basque, vous avez des contraintes épouvantables. Ça explique aussi pourquoi on utilise beaucoup les voitures quand on habite le centre.
Les avis de Marie, Sylvie et Christian, on les retrouve à l'échelle macro dans le dernier rapport de l'Autorité de régulation des transports. Il est paru en décembre dernier et il confirme notamment que la voiture reste le moyen de transport le plus utilisé. Elle représente encore 3/4 des déplacements longue distance. Vient ensuite le train, 10% de part modale au coude à coude avec l'avion. La principale différence, c'est que la demande de train n'a jamais été aussi forte en France, plus 60% de passagers transportés entre 2021 et 2022. Bien sûr, il y a le retour des habitués après le Covid, mais surtout l'arrivée de nouveaux adeptes.
Je m'appelle Frédéric, je vis à Bobigny, en Seine-Saint-Denis, et je travaille à Paris. Et j'ai décidé cet été de passer des vacances en Espagne, en Galice, et de m'y rendre uniquement en train.
À 46 ans, le Covid a été un électrochoc pour Frédéric et l'occasion d'interroger sa manière de voyager.
J'ai décidé d'arrêter de prendre l'avion complètement depuis février 2020. En fait, j'ai pris conscience que j'allais devoir changer la façon dont je me déplace, notamment pour aller en vacances. Et notamment, un des aspects de notre quotidien auquel on ne pense plus et qu'on utilise assez fréquemment pour beaucoup de gens, c'est l'avion.
Pour ses prochaines vacances, Frédéric ne jure donc que par le train. Elle est justement en pleine recherche de billets.
Au départ, moi, je pensais que ça allait être simple. Et ensuite, je me suis retrouvée à rechercher. Première chose, je suis allée sur le site de la SNCF. Et là, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas aller en Galice en train avec la SNCF. Donc j'ai dû me demander jusqu'où je devais aller en France, le plus au sud, le plus proche de l'Espagne, pour ensuite réussir à me connecter à des trains espagnols. Et là, désastre, quand j'ai regardé la carte sur le site de Renfe, là je me suis rendu compte qu'il y avait un problème. C'est-à-dire qu'en dehors de cette ligne de la SNCF qui est bien indiquée jusqu'à Barcelone, le reste, il n'y a aucune ligne qui traverse de la France à l'Espagne. Enfin, en tout cas, c'est l'impression qu'on a. Et donc j'ai vu qu'en Espagne, ils ont un fonctionnement qui est en étoile à partir de Madrid. Et je me suis dit, c'est dingue, je pensais que c'était qu'en France qu'on avait ce problème, où tout part de Paris parce qu'on est un pays ultra centralisé. Et en fait, en Espagne, c'est le même problème, ce qui pour moi ne faisait pas sens. Donc j'ai quand même essayé de voir ce qui pouvait fonctionner. Et je suis tombée sur le site de Euskotren. En gros, c'est les trains de banlieue du Pays Basque. Et en fait, je pensais qu'on pourrait faire ça en 2 étapes, mais finalement, je me suis rendu compte qu'il fallait faire ça en 3 étapes. C'est donc Paris-Hendaye, Hendaye-Saint-Sébastien dans la même journée, dormir à Saint-Sébastien, prendre le train pour aller à Madrid, dormir à Madrid, et le lendemain, partir pour aller vers la Corogne.
Ça vous coûte combien, ce trajet en train jusqu'à la Galice ?
Ça va me coûter plusieurs centaines d'euros. Comme certaines réservations ne sont pas ouvertes, j'ai pas de budget complètement arrêté. Donc oui, ça c'est un budget. Et ça, je savais que de toute façon, le train, ça allait me coûter plus cher. Je pense que j'ai même pas regardé les billets d'avion, mais si je tapais Paris, la Corogne, je pense que ça me coûterait beaucoup moins cher.
Frédéric le reconnaît, elle a les moyens pour faire ce choix-là. Mais pour savoir si cet avis est partagé par d'autres passagers, je suis gare d'Austerlitz, où je m'apprête à monter dans le train de nuit Paris-Toulouse, départ 21h42. Bonsoir.
Bonsoir.
Donc là, on est dans un compartiment de train de nuit rénové, 6 couchettes, 3 de chaque côté. et donc 5 camarades de chambre pour la nuit. Vous vous connaissez, vous, déjà?
Du tout. Mais on a eu l'occasion d'échanger un petit peu en rentrant dans la couchette.
C'est ça.
Je m'appelle Léa, j'ai 20 ans et je fais le trajet Paris-Toulouse. Je prends le train de nuit pour partir justement en week-end prolongé. C'est vrai que je le prends très souvent. C'est devenu une habitude depuis, on va dire, janvier. En fait, à partir du moment où j'ai commencé à le prendre, on va dire que je l'ai assez rapidement adopté. Parce que c'est un moyen de transport qui ne nous fait pas perdre de temps. Finalement, quand il y est la nuit, on part le soir, on arrive le matin et on n'a pas perdu une journée de travail. Ça, c'est super. Et à l'inverse du bus, quand on est dans le train, on a vraiment un confort de pouvoir dormir, de pouvoir se changer, de pouvoir avoir ses affaires. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes. Parce que ce soit dans les prix, on s'y retrouve assez facilement. Là, c'est vrai que c'est... On n'est pas dans la meilleure période étant donné que c'était un voyage durant le week-end de Pâques. Forcément, les prix sont élevés. Pour ce trajet, j'ai payé 92 euros, ce qui est très très cher contrairement à d'habitude. Mais habituellement, pour un Paris-Toulouse, c'est vrai qu'il m'est arrivé des fois de payer 19 euros en train de nuit. Donc, c'est magique.
Est-ce qu'il y a aussi des arguments écologiques? On entend ça beaucoup, mais dans la pratique, est-ce que ça peut jouer dans le choix du mode de transport pour vous ou pas forcément?
Alors j'avoue que c'est pas l'argument qui va décider ce choix. Le choix sera vraiment plus dans le confort du trajet, dans le prix, dans les horaires qui sont beaucoup plus accessibles que ne peuvent l'être certains autres modes de transport.
Bon ben bonne nuit.
Mesdames, messieurs, nous arrivons en gare de Toulouse-Matabiau.
Bilan de cette nuit, Léa.
Ah, la nuit s'est très très bien passée. J'ai tenté pour la première fois la couchette du haut. Et c'était une bonne nuit de sommeil et en pleine forme pour la journée qui s'annonce.
Avis unanime.
Avis unanime. On voyage bien, on dort à peu près correctement.
Bon week-end à vous.
À vous aussi.
Très bon week-end également.
L'argument qui revient de manière unanime chez les usagers du train de nuit, c'est le côté pratique et le côté économique aussi, dans certains cas et à certaines dates, ce qui n'est pas le cas pour tous les trains. Certains passagers ont aussi pointé des difficultés à pouvoir réserver un train, tout simplement parce qu'il n'y a plus de billets en vente pour les dates les plus prisées.
Trafic.
Pour savoir maintenant si cette envie de voyager autrement correspond à une réalité plus large, je vais appeler Éric Chariron, il est spécialiste de la prospective dans les transports. Bonjour.
Oui, bonjour.
Que vous inspirent ces deux témoignages qu'on vient d'entendre? Est-ce qu'on est dans l'anecdotique ou un réel mouvement de fond?
Il est clair que depuis la crise du Covid et les crises qui se succèdent, il y a eu une attention portée sur les préoccupations environnementales. Et on avait à peu près, à la sortie de la crise sanitaire, environ 40% des gens qui étaient dit « c'est l'occasion ou jamais de redonner un sens à sa vie, de se préoccuper mieux de la planète ». Mais à côté de ça, il ne faut jamais oublier qu'il y avait à peu près autant de personnes, un peu plus, qui disaient « il faut d'abord revenir à la vie d'avant, c'est ça l'essentiel ». Et puis il y en avait même qui souhaitaient rattraper le temps perdu. Donc vous voyez, il y a quand même, c'est important, hein, 40% des gens qui sont prêts à remettre un certain nombre de choses en cause. Alors ensuite, il est vrai qu'on voit bien qu'en ce moment, avec l'inflation, notamment avec ces préoccupations qui avaient disparu, on voit que quelque part, les préoccupations environnementales peuvent être aussi mises au second plan par rapport à d'autres.
Globalement, quels sont les changements que l'on peut déjà observer dans la manière de se déplacer sur la longue distance?
C'est un peu trop tôt, je trouve, pour le voir, parce que si vous voulez... Il faut un peu de recul pour dépouiller les enquêtes. Et puis là, on a été dans une période quand même qui a été, même jusqu'à la fin 2022, très incertaine. C'est-à-dire qu'il est difficile malgré tout de pouvoir dégager des tendances longues. Par exemple, on a été étonné de se rendre compte que même encore en décembre 2022, dans les enquêtes que l'on fait, le sentiment d'insécurité sanitaire au sein des transports publics est encore assez présent et relativement décorrélé de la proximité. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas d'énorme différence entre un TER, un TGV ou un métro. Donc tant que ça, ce n'est pas terminé, tant qu'on n'est pas revenu sur une situation normale, aujourd'hui on a l'inflation qui est présente, donc c'est difficile de savoir qu'est-ce que dans les phénomènes que l'on voit aujourd'hui va durer ou pas.
Vous estimez que l'offre actuelle de transport ne correspond pas toujours à la demande ni aux nouvelles manières de voyager. Pourquoi? Quels sont les points de blocage?
Les nouvelles pratiques, c'est pas se compliquer la vie. C'est-à-dire que c'est d'avoir des offres qui soient plus cadencées, plus lisible, qu'on puisse comprendre facilement les offres tarifaires, qu'elles ne donnent pas l'impression d'être surfacturées à certains moments pour pas créer du déceptif et se dire « Oh là là, moi je prends plus parce que j'ai vu tel jour, c'était trop cher ». Ensuite, ce que cite Frédéric est très intéressante, elle dit « je vais prendre le train pour aller en Espagne ». Et là, c'est le côté, on découvre que c'est compliqué. C'est-à-dire qu'en fait, l'univers de la mobilité, c'est un univers qui est un peu, je dis bien, réservé à des initiés. C'est-à-dire, dès qu'on veut sortir un peu d'une liaison qu'on a l'habitude de faire, ça devient relativement compliqué. Alors, c'est compliqué de trouver la bonne information, un horaire adapté, faut jongler avec les sites sont pas tous préparés de la même manière, faut quelquefois changer quand on passe une frontière avec des opérateurs différents qui ne parlent pas de la même manière. Ensuite, on arrive un peu sur cette dimension un peu déceptive, c'est-à-dire que des gens peuvent être super tentés de le faire, et en même temps, de se rendre compte, oh là là, mais c'est compliqué, je trouve pas chaussure à mon pied, c'est cher, je comprends pas les politiques tarifaires. Et donc, ça, ce sont des choses qui sont à intégrer pour faire en sorte que les personnes se sentent mieux dans cet univers-là et que ce ne soit pas uniquement un univers d'habitués.
Face aux freins encore présents dans l'organisation des transports en commun, la voiture, elle, reste symbole de liberté, mais dans une majorité des cas, c'est surtout l'unique solution. On comprend donc que la route représente encore 3/4 des trajets longue distance. C'est une moyenne avec des disparités très fortes d'une région à l'autre. Par exemple, au départ de l'Île-de-France, 6 voyages sur 10 se font en transport en commun. C'est presque 2 fois plus qu'au départ de la Normandie. L'explication, elle est assez simple pour Noémie, une étudiante de 24 ans installée à Caen.
Il n'y a pas assez de transports en commun qui sont proposés au départ de la Normandie pour pouvoir desservir les autres régions.
Noémie se rend plusieurs fois par an dans le sud-ouest pour des stages ou pour rendre visite à sa famille. Pour ce trajet, il y a l'avion, à condition de s'y prendre tôt pour trouver des billets abordables. Le train, mais avec une correspondance et un changement de gare à Paris. Régulièrement, le meilleur compromis, c'est finalement la voiture et donc le covoiturage pour réduire les coûts.
Le covoiturage, c'est intéressant au niveau du prix parce que souvent, c'est moins cher. Quand je l'avais réservé, ça devait me coûter moins de 60 euros quand le train, lui, était à plus de 100 euros. Et le covoiturage, on peut en trouver assez proche de son moment de départ, j'ai envie de dire. Si on sait qu'on peut partir que 48 heures avant, souvent, il y a quand même moyen de trouver un covoiturage. On a plusieurs options, et notamment aussi des groupes de covoiturage sur Facebook qu'on peut trouver. Ensuite, le covoiturage, c'est quand même très pratique parce que justement, c'est pas non plus moi qui conduis. Donc, ça revient un peu au même avec le train. C'est pas moi qui me fatigue, je peux faire autre chose à côté aussi. Mais néanmoins, ça prend plus de temps, c'est vrai, de prendre les covoiturages.
L'autre option pour voyager pas cher, à condition d'avoir le temps, c'est l'autocar. Je suis maintenant devant la gare routière de Paris-Bercy, la plus grande d'Europe. C'est ici que se font le plus de correspondances, car depuis l'ouverture du marché en 2015, le car représente 3% des trajets longue distance. Ici, on entend parler anglais, espagnol, allemand. On croise surtout beaucoup de jeunes voyageurs comme Julien. Lui a d'abord choisi le car pour les services.
Le comparatif, le train, moi, c'est ce qui m'est le plus insupportable parce qu'à la fois, on nous promet le Wi-Fi à bord, par exemple. Donc, on croit pouvoir télétravailler à bord d'un train avec Wi-Fi. Finalement, on ne peut pas. Donc après, forcément, quand il y a des bus, il y a des prises à bord, il y a le Wi-Fi qui fonctionne, de une. Donc le train, pour moi, c'est très long. C'est très cher. Là, on fait un Bruxelles-Nantes, 20 euros le trajet par personne, donc l'aller. Et sinon, le train, c'était environ 100, 150 euros, je crois. Et la voiture, c'est faut compter environ 120 euros. Après, on divise les coûts par personne, mais c'est 120 euros la voiture pour faire un aller Bruxelles-Nantes, quoi. Et après, il y a le temps, mais bon, le temps, après, on l'accepte au vu du prix. Et voilà, après, c'est le trafic routier qui est fait ainsi. C'est un bon rapport qualité-prix, finalement, le car, quoi. C'est globalement les principaux aspects. Après, l'aspect environnemental, la conscience, je l'ai, mais l'acter, finalement, je peux pas. À 24-25 ans, c'est... On a cette conscience, mais c'est la praticité qui prime surtout et l'argent, c'est juste ça.
Chez les autres passagers rencontrés, ils sont nombreux à avoir les traits tirés, de petits yeux. Le voyage est souvent long et fatigant. Malgré tout, les autocars vont continuer de se développer, mais toujours comme une offre alternative ou complémentaire, d'après le spécialiste de la prospective, Éric Charéron.
Je fais partie de ceux qui parient sur le développement des cars longue distance pour deux raisons. D'une part, parce qu'ils peuvent venir en complément du train à des créneaux horaires où celui-ci n'est plus forcément, entre guillemets, rentable à exploiter quand il n'y a que 40 personnes à transporter. Ce n'est peut-être pas la peine de faire du trajet en train parce que ça coûte très cher. Par contre, un quart à très haute qualité de service peut prendre le relais en début de soirée, en fin de soirée, etc., pour permettre effectivement ce type de mouvement-là, qui aujourd'hui n'est peut-être pas assez exploité en complément. C'est-à-dire que dans ce cas-là, il faut pratiquement que le car soit une prolongation du train et qu'il soit traité comme du train, qui n'est pas une espèce de césure entre, quand vous arrivez dans une gare, entre les trains où vous savez exactement où ils vont partir, alors la voie 4, etc., puis le car, on vous met un petit logo, gare routière, et puis on se débrouille. Donc il faut vraiment que le car soit traité comme une prolongation du train, alors soit certains jours, soit certains horaires. Et puis il y a tout le cas où le car peut être le complément du train parce que tout simplement, il n'y a pas d'infrastructure ferroviaire.
Pour revenir à la voiture, on a beaucoup entendu parler de l'envolée du prix de l'essence. Il se situe toujours autour de la barre symbolique des 2 euros. Et pourtant, la voiture reste de loin le mode de transport préféré. N'est-ce pas un paradoxe ?
Il n'y a pas de paradoxe, à mon avis, sur le moyen terme ou sur le long terme, puisqu'en fait, le prix d'utilisation de la voiture, au niveau du prix marginal de son utilisation, ne cesse de baisser sur le moyen ou sur le long terme. C'est-à-dire que globalement, les voitures, depuis des décennies, consomment de moins en moins, et que, deuxièmement, les 2 euros symboliques, on en parlait déjà, je suis désolé, mais on faisait déjà des enquêtes là-dessus il y a 15 ans, et en 1973, on parlait à l'époque de 10 francs le litre. Donc, quelque part, ce prix symbolique qui, certes, au niveau du temps court, est élevé, parce que l'année dernière, il n'était pas à ce prix-là, mais sur le temps long, avec une heure de SMIG, on peut faire bien plus de kilomètres qu'il y a 30 ans. Et ça, c'est de manière continue. Donc là, il y a un paradoxe qui n'en est pas un autant que cela. La deuxième raison, c'est que la voiture, elle est quand même bien ancrée dans le quotidien de la vie d'un certain nombre de citoyens et citoyennes, notamment qui ne vivent pas dans le cœur des métropoles. C'est-à-dire qu'il y a un lien entre la mobilité des quotidiens et un des déplacements que vous faites dans votre bassin de vie et la mobilité longue distance. Quand vous avez pris l'habitude de ne plus compter sur votre voiture particulière dans le cœur des métropoles, hein, pas en banlieue, mais dans le cœur des métropoles, ben, vous pouvez effectivement vous déplacer autrement parce que vous avez cette référence-là dans la tête. Pour les 80% des citoyens et des citoyennes en France qui ne vivent pas dans le cœur des métropoles, la voiture reste encore le modèle dominant qui est hérité, je dirais, d'une société qui a tout misé sur la voiture depuis des décennies en termes d'aménagement du territoire, de développement des zones, du mitage pavillonnaire. Donc, on a tout misé là-dessus. Et donc, ça reste encore l'élément de référence pour une bonne partie des gens. Donc, c'est difficile de s'en déshabituer. Donc, c'est là où les solutions, notamment, de multimodalité, c'est-à-dire de dire ben, on peut faire peut-être une partie du trajet en voiture pour aller trouver une gare et aller trouver une section de train qui là sera très pratique, sont peut-être intéressantes à creuser.
Et ce que vous pointez, c'est aussi le besoin d'une information complète sur cette multimodalité et avec des combinaisons qui ne sont pas toujours possibles dans les agrégateurs, les comparateurs actuels. Concrètement, dans les études que vous menez, quels sont les facteurs déterminants qui ressortent le plus au moment de choisir entre les différents modes de transport ?
Alors, j'ai sans doute un peu vous étonné, mais souvent, c'est l'habitude. C'est l'habitude. Dire qu'on a toujours fait comme ça. Donc, pour la grande majorité des gens, la question ne se pose même pas. On a l'habitude d'aller de Paris à Marseille en train. On y va. Par contre, j'ai l'habitude d'aller de Clermont-Ferrand à Guéret en voiture. La question ne se pose pas. Je vais continuer à le faire en voiture, pour la majorité des cas. Après, il y a des événements extérieurs qui viennent surgir. Tout d'un coup, le prix franchirait. Ou tout d'un coup, vous voyez arriver un TGV, c'est-à-dire quelque chose de très visible dans votre environnement. Ou alors, il y a une campagne extraordinaire pour valoriser une nouvelle ligne de train qui vient d'être ouverte ou qui vient d'être simplifiée. Et là, tout d'un coup, vous posez la question. C'est-à-dire qu'il y a un événement extérieur qui vient se positionner et qui vous fait voir les yeux en disant « Ah tiens, et pourquoi pas ça ?» Et l'autre raison, c'est l'événement intérieur, c'est-à-dire qui vous concerne vous. Tout d'un coup, vous avez un problème de vision, ou vous avez un problème de rachis qui vous empêche, cervical, qui vous empêche de bien vous tenir en voiture ou de ne pas être aussi à l'aise pour conduire. Et là, éventuellement, la question du choix modal peut se poser. Mais n'oublions pas qu'avant le choix modal, il peut y avoir la renonciation au déplacement. C'est-à-dire qu'il y a aussi une partie des gens qui ne se posent même pas la question du choix, mais qui, vont carrément renoncer à se déplacer. Et donc, ceci peut expliquer en partie cela. C'est-à-dire que la voiture reste encore, pour un certain nombre de personnes, mais très nombreuses, en fonction du lieu où elles habitent, une part essentielle de la mobilité.
Les transports, c'est donc une affaire d'habitude que les politiques publiques tentent de faire évoluer. L'année dernière, il y a eu l'interdiction des vols intérieurs lorsque le train fait le même trajet en moins de 2h30, avec quand même quelques exceptions, notamment pour les vols en correspondance avec des longs courriers. Autre incitation, la prime covoiturage, 100 euros versés à celles et ceux qui s'inscrivent et qui covoiturent régulièrement sur une plateforme. Le premier bilan est positif selon le gouvernement. Depuis le début de l'année, 2 700 000 trajets ont été réalisés. C'est deux fois plus que l'année dernière à la même époque. C'est le terminus de ce premier épisode de Trafic, un podcast original de Valentin Bertrand pour Mobilettre. Ah.